Radio Okapi. Grande interview.
Grande interview reçoit Joseph Kapika, ministre d'État à l'économie nationale et membre du comité stratégique du Front commun pour le Congo, FCC en sigle. Avec lui, nous abordons les grands sujets d'actualité politique et économique de l'heure. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous dans votre émission. Joseph Kapika, vous êtes ministre d'État à l'économie. Bonjour monsieur le ministre, comment vous allez ?
Bonjour, je vais très bien.
Vous le savez, l'actualité est dominée par la dernière sortie médiatique du président du Sénat, Léon Kengouadondo, dans son interview à RFI, qui a déclaré concernant le candidat du FCC, l'honorable Chadari, qu'il était libre de le soutenir ou pas. Qu'est-ce que vous pensez de cette déclaration, vous, en tant que membre du comité stratégique du FCC?
Merci beaucoup de la question. J'ai suivi le président Kengo. Pour ceux qui me connaissent, j'aime l'appeler le Premier ministre Kengo. Je l'ai suivi parlant du soutien ou non à la candidature d'Emmanuel Ramazani Chadari comme notre candidat pour le compte du FCC. Je crois que dans toutes les organisations, quand vous décidez librement de soutenir un candidat, ou de soutenir une cause, il ne faut pas avoir double langage. Dès qu'on soutient un candidat, c'est qu'on va voter pour lui. Mais dès lors que vous semez le doute, ça devient dangereux dans la mesure où la charte du FCC nous invite tous à la discipline. Voilà comment je peux répondre en quelques mots à cette question-là, mais je l'ai aussi entendu parler de Bemba en disant « c'est mon fils, c'est vrai ». Le président Kengo a de longues relations, beaucoup de liens avec Papa Jeannot Bemba, que son âme repose en paix. Mais je crois que si on doit soutenir aujourd'hui un candidat parce que c'est son fils, on y va avec sentiment, on y va avec le cœur. Je crois que pour un homme de sa trempe, il devrait dire aux Congolais « votez pour celui qui peut conduire à bon port le peuple congolais ».
Et donc on peut dire que selon vous, il est temps que le président Léon Kengouadondo fasse son choix, soit de rester au FCC, soit de le quitter.
Ah non, 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 non. Le président Kengo a signé la charte du FCC. En toute liberté, il a dit que cela ne donnait pas obligation aux membres du FCC de voter pour le candidat. Ce n'est pas à moi de lui dire de quitter ou de ne pas quitter. Non, 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 non. C'est un homme libre, je crois qu'il assume sa déclaration, je n'ai pas autre chose, autre commentaire à faire. Ce n'est pas moi qui dis à l'un restez au FCC et à l'autre allez-vous-en.
Alors, il dit aussi, Léon Kengouadondo, que le temps du modèle du parti unique où l'on imposait des choix aux membres est révolu. N'est-ce pas un coup de poing dans les partis intimes du FCC?
Non, 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 pas du tout, pas du tout. Mais il pouvait aussi dire la même chose de nos frères et sœurs de l'opposition qui se battent pour avoir un candidat unique. Mais nous sommes une méga plateforme. Quoi de plus normal que nous disions, nous allons soutenir un seul candidat, nous allons battre campagne pour lui, nous allons voter pour lui. Non, l'FCC n'est pas un parti unique. Je n'aime pas donner l'impression que je m'attaque au président Kengo. Lui-même a une grande plateforme. Ce n'est pas devenu un parti unique. Tous les regroupements politiques ne sont pas des partis uniques. Mais je voudrais quand même anticiper. À l'allure où vont les choses, il viendra un jour, une année, dans ce pays où il n'y aura plus que deux ou trois grands ensembles politiques, au lieu de nous retrouver devant plus de 500 partis politiques. Mais il y a combien d'ensembles aux États-Unis? Il y a les démocrates et les républicains. Aller en Belgique, c'est deux blocs, trois blocs en France, oui. On est de la gauche, on est de la droite. Encore qu'il n'y a plus d'idéologie, dans la gauche ou dans la droite, on regarde le bien-être de son peuple et puis c'est tout.
Vous avez évoqué le cas de Jean-Pierre Bemba, auquel a fait allusion le président Léon Kengo-Wadondo. Il a aussi parlé de Moïse Katumbi en prônant l'inclusivité des prochaines élections, que Moïse Katumbi doit revenir, que le président Kabila doit l'amnistier. Qu'est-ce que vous en pensez?
Une fois de plus, je ne veux pas donner l'impression que je m'attaque au président Kengo, que je lui réponds. Non. Le président Kengo, c'est un ancien procureur général de la République. Il a marqué l'histoire judiciaire de notre pays. Et tout le monde, nous nous étions encore aux études, on disait l'homme de la rigueur. Je crois qu'il doit faire preuve de rigueur jusqu'à aujourd'hui. Moïse Katumbi, s'il a des problèmes avec la justice, tout ce que le président Kengo peut faire, peut dire, c'est quoi? Laisser la justice faire son travail. Parce que c'était notre pouvoir. Il a été à la base de beaucoup de réformes judiciaires. Je crois qu'aujourd'hui, il ferait mieux de dire tout simplement à tout le monde, laisser la justice faire son travail, quel qu'en soit le cas.
Quand on prend en compte la candidature du professeur Tryphon Kin-Kemoulumba, un cadre de la majorité présidentielle, et la sortie médiatique de Léon Kengo-Wadondo, la maison FCC serait-elle en train de se fissurer déjà?
Ah non, 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 la maison FCC ne se fissure pas dans la mesure où tous les jours nous enregistrons beaucoup d'adhésions, beaucoup d'engouement. Vous savez, à l'époque, je vais faire allusion au fait président Tshisekedi parce que c'est lui qui m'a formé en politique, je suis resté très longtemps à ses côtés. On vient lui dire, mais monsieur le président, les gens sont en train de quitter l'UDPS, on parlait du débauchage. Il a rigolé, il dit, mais allez en face de nous. C'est des villages entiers qui quittent. Et ici chez nous, un individu part, vous en faites un problème. Que vaut un individu par rapport au reste des populations qui sont en train d'adhérer au FCC? Non, non, la maison ne se fissure pas. Je crois que les prises de position de l'un et de l'autre sont venues à point nommé. Parce que si elles étaient venues la veille des élections, on se serait inquiété. Mais ces prises de position s'étant manifestées aujourd'hui, il y a moyen de les gérer pour l'intérêt du FCC, pour l'avenir de notre pays.
Pour clôturer le chapitre sur la sortie médiatique du président du Sénat, Léon Kengo-Wadondo, est-ce qu'il n'a pas dit tout haut ce que beaucoup des cadres du FCC murmurent tout bas? Concernant notamment la désignation de l'honorable Chadari comme dauphin du président Kabila.
Je dois être honnête avec vous. Dans la Bible, il est dit, beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Il y a eu certainement beaucoup dans les rangs du FCC qui espéraient être désignés notre candidat unique à la présidentielle. Ça ne peut pas faire la joie de tout le monde, mais je crois que nous sommes en train de gérer tout cela pour que chacun comprenne qu'il n'y avait qu'un fauteuil. Le président a désigné quelqu'un après consultation et que nous avons tous intérêt à les soutenir. Les gens peuvent murmurer, c'est leur droit, mais à tous, j'ai dit, il n'y avait qu'un seul candidat, un seul fauteuil, tout le monde ne pouvait pas s'y mettre. Il est temps de se faire violence, de regarder dans la même direction, il va de l'avenir du FCC, de l'avenir de notre pays.
Radio Okapi. Grande interview.
Grande interview reçoit le ministre d'État à l'économie nationale, Joseph Kapika, qui est aussi membre du comité stratégique du FCC. Monsieur le ministre, on est à 5 mois des élections, il n'y a toujours pas de consensus sur la machine à voter. N'allons-nous pas vers un blocage?
Il n'y a pas seulement le problème de la machine à voter que nos frères et sœurs de l'opposition posent. Ils posent tout un tas de problèmes, les fichiers électoraux, ce qu'ils appellent personnalité emblématique. Moi, je mets ça entre guillemets. Mais je crois que ils ont une préoccupation qu'ils ne veulent pas dévoiler au grand jour. Des années durant, le président Kabila disait, je vais respecter la Constitution. Ils ne l'ont pas cru. Pendant tout ce temps, c'était des Congolaises et des Congolais dans la rue. Nous connaissons les conséquences. peut-être qu'on évaluera les dégâts un jour. Subitement, le moment venu, le président dit, je respecte la Constitution. Et ils sont surpris. Et pourtant, dans nos salons, parce qu'on parle avec eux, nous leur disions, attendez le jour du dépôt de candidature. Si il dit, je me présente, vous êtes libre de réagir comme vous voulez. Mais nous n'avons pas intérêt de compter des morts, de déplorer des dégâts, alors que le jour J n'a pas encore sonné. Voilà là où nous en arrivons. Mais leur vraie motivation, c'est quoi? Ils cherchent un dialogue, un énième dialogue. Je crois que le potentiel a fait une très bonne analyse il y a 10 jours. Le titre, c'était quoi? Kabila a piégé et l'opposition et la communauté internationale. Parce que personne ne s'attendait à ce qu'il dise « je ne me représente pas ». Tout le monde était convaincu qu'il allait dire « je vais me représenter ». Comme ça, on précipite le pays dans le désordre. Maintenant qu'il dit « je ne me représente pas », ils disent « tiens, si nous allons aux élections maintenant, nous sommes battus. Si nous disons « n'allons pas aux élections le 23 décembre », nous aurons des problèmes avec la population parce qu'on va prolonger. » Et j'ai dit à beaucoup d'entre eux, voilà les vides créés par la mort du président Tshisekedi, qui avait le courage de ses actes, qui quand il faisait une analyse, prenait position, souvent qu'est-ce qu'on disait, Tata Wanakosi, il a menti, à la fin on lui donnait raison. Il avait seul ce charisme-là, et ce charisme-là, nous ne le connaîtrons pas dans peu d'années.
Par rapport à la machine à voter, quelle est la voie de sortie? La CENI y tient mordicus, elle dit qu'il n'y aura pas d'élection sans machine à voter. L'opposition dit élection, mais sans machine à voter. Quelle est la voie de sortie selon vous?
C'est ça que j'étais en train de dire. Élection sans machine à voter, ça signifie qu'il faut un nouveau matériel. Il faut du temps pour commander ce matériel-là. Il faut qu'il soit livré. Il faut que le personnel soit formé pour cela. Il faut qu'il soit déployé. Ça peut nous prendre peut-être 6 mois, une année. Donc nous sommes au-delà du 23 décembre de cette année. Qu'ils aient alors le courage de dire, pas d'élection le 23 décembre, mettons-nous ensemble, prolongeons la transition.
Oui, mais est-ce qu'ils pourront dire aussi que c'est un piège que vous leur avez tendu, parce que dès le début, ils ont dit non à cette machine à voter. Même la communauté internationale a attiré l'attention de la RDC à ce sujet.
Mon frère, puisque c'est l'histoire, souffrez que j'en parle. Les élections de 2011. Chaque jeudi, nous étions sur la rue. Il y a eu ce qu'il y a eu. C'était pour les serveurs. Nous n'avions pas obtenu gain de cause, mais il y a eu élection. Et ceux qui critiquent la machine à voter aujourd'hui, là, ils savent où ils étaient. Ils étaient là où je suis. Ils sont là où j'étais. C'est dire que c'est déjà arrivé dans ce pays. Mais pour éviter ceci, cela, qu'ils aient le courage de dire à la population, nous rentrons autour de la table, parler de toutes ces questions-là, mais population, nous vous avons mis dans la rue pour qu'il y ait absolument élection le 23 décembre. Nous constatons que ça ne va pas. Pardonnez-nous, il y aura prolongation. Ils n'ont pas ce courage-là. Qu'ils aient ce courage-là. Qu'ils aient ce courage-là.
La RDC va organiser seule ses élections, a dit le président de la République, Joseph Kabila. RDC, un pays continent, est-elle en mesure de faire face aux défis logistiques et financiers?
Je crois que nous sommes en train de démontrer à la face du monde aujourd'hui qu'au plan financier, nous finançons bien ces élections. Si vous posez la question au ministre d'État au budget ou bien au ministre des Finances, ils vous diront que nous avons serré la ceinture pour financer ces élections-là et on va y parvenir.
Vous êtes membre du gouvernement, on est à peu près à quel pourcentage?
Non, je n'aime pas donner des chiffres dont je n'ai pas la maîtrise. Mais je crois que si vous posez la question ou à la CENI ou au ministre des Finances, ils vous répondront avec précision. Vous avez parlé de la logistique. Je ne pense pas que au niveau de la CENI comme au niveau du gouvernement, un chapitre, un problème aussi important soit oublié. Non. Ils ont pris toutes les dispositions pour déployer l'équipe, déployer le personnel et organiser les élections. Et je voudrais dire ici que pour le président de la République, les élections doivent se tenir le 23 décembre et non un jour avant ou un jour après. Mais qu'est-ce que vous voulez? Comme il est soucieux de la paix dans ce pays, et il l'a dit en prenant l'initiative de créer l'FCC, il nous avait dit clairement, il y a de la place pour toutes les Congolaises et tous les Congolais. Il tient à fédérer toutes les Congolaises et tous les Congolais. Il tient à la paix, il tient à l'avenir de ce pays. Je crois que les amis qui hésitent, et je reviens sur leurs préoccupations, ils n'ont qu'à lui écrire, Monsieur le Président de la République, nous pensons que le 23, ce n'est pas possible pour l'intérêt supérieur de notre pays, la paix, la concorde. Nous vous demandons un nouveau dialogue, qu'on aille ensemble et qu'on fasse les choses ensemble.
Il y a aussi cette revendication des opposants concernant une bonne frange des Congolais qui enrôlés sans empreinte digitale. Et donc, pour certains opposants, le fichier n'est pas totalement sûr.
C'est ça que j'étais en train de dire dès le début. Il y a la machine à voter, il y a les fichiers, il y a ce qu'ils appellent personnalités emblématiques. Encore que je sache si elles le sont réellement. Mais ce n'est pas ce que je suis en train de dire à haute voix. Je l'ai dit dans mon salon à beaucoup d'amis de l'opposition avec lesquels je parle. Ayez le courage de dire que nous voulons d'un dialogue pour aller parler de toutes ces questions-là. On ne va pas vous répondre. On ne va pas répondre à vos communiqués de presse par des décisions d'État. Non, non, pas du tout. Pas du tout.
Joseph Kapika, vous êtes ministre d'État à l'économie nationale. Il y a la mesure portant interdiction de l'importation et de la commercialisation des sachets plastiques qui peinent à s'appliquer sur terrain, monsieur le ministre, faute de mesures d'accompagnement selon certains experts. Quels sont, selon vous, les préalables pour la réussite d'une telle mesure?
Non, non, je ne pense pas que le décret du Premier ministre interdisant l'importation, la production ou la commercialisation de tout ce qui est sachet plastique peine, comme certains le disent, non. Faisons le tour des grandes surfaces, nous verrons qu'il n'y a pratiquement plus ces sachets-là. Qu'est-ce que vous voulez? Il peut y avoir un récalcitrant, un opérateur économique véreux qui veut liquider son stock. Mais nous avons des missions de surveillance qui sont à pied d'œuvre. Le ministre de l'Industrie a déployé ses hommes. Moi-même, j'ai déployé mes hommes. Et je voudrais dire que pour faire l'évaluation de cette situation-là, nous avons une grande rencontre dans mon bureau, dans mon cabinet, le lundi à 11h. C'est à la demande du ministre d'État, ministre du Commerce extérieur. Nous allons faire l'évaluation de ce décret-là, de tout ce que nous avons pris comme arrêté, des réalités sur le terrain pour voir comment évoluer. Le même jour, à 13h, je reçois le gouverneur de la ville de province de Kinshasa, André Kimbuta, accompagné des opérateurs économiques. Nous allons parler de nouveau de cette question-là. Mais je vais vous dire que tout le monde, que ce soit les opérateurs économiques, que ce soit le gouvernement, nous sommes tous d'avis qu'on doit éliminer tout ce qui est plastique parce que ça détruit notre environnement. Imaginez, il faut un siècle pour que ces emballages-là pourrissent dans les sols. En attendant, c'est le sol qui devient pauvre. Et nous allons avoir un sol, un grand territoire, un sol pauvre, mais qu'est-ce que nous allons manger? De deux, faites un tour vers l'hôpital de la Rive. Mais encore un peu, le fleuve est en train de se rétrécir. Qui accepterait que le fleuve Congo disparaisse? On ne parlera plus ni d'Inga, ni de tous ces ports-là. Qui peut accepter cela? Allez, j'ai parlé avec l'administrateur délégué de la FEC, qui est conscient des dégâts de sachets plastiques. Aujourd'hui, quand on inventre les poissons, on trouve ces sachets-là dans leurs estomacs. Donc nous sommes en train d'assister à l'extinction même des poissons. Nous sommes tous d'avis que ces sachets-là doivent disparaître. Il y a quelques exceptions près. J'ai reçu la lettre des opérateurs miniers, mais ce n'est pas des sachets qu'ils utilisent ici. Ces sachets viennent de l'extérieur. on emballe certains minéraux, ils rentrent à l'extérieur où ils sont détruits. Je suis en train de parler avec eux, je vous dis que tout le monde est d'accord qu'on doit éliminer ces sachets plastiques-là. Là où il y a un peu de temps, nous prendrons un peu de temps, mais je suis content de constater que les mesures prises par le Premier ministre, matérialisées à travers des arrêtés par le ministre d'État au commerce extérieur, le ministre de l'Industrie et celui de l'Environnement et moi-même, sont en train de donner des fruits et des fruits satisfaisants.
Monsieur le ministre, la mesure, elle est bonne, n'en disconvient pas, mais on voit dans d'autres pays, lorsque ce genre de mesures sont prises, il y a des contreparties. L'État facilite l'importation, par exemple, des sachets biodégradables ou d'autres produits biodégradables qu'on utiliserait à la place des sachets plastiques, mais ça ne se fait pas ici.
Ah non, non, ils ont eu un moratoire. Prenez la date à laquelle le Premier ministre avait pris le décret. Et les dates auxquelles chacun des ministres auxquels je viens de faire allusion a pris des arrêtés, ils ont eu un moratoire. Donc, un temps nécessaire pour assurer le passage aux sachets plastiques non biodégradables, aux emballages biodégradables. Je voudrais même vous dire, et vous pouvez avoir plus de renseignements auprès du ministre de l'Industrie, il y a des usines qui sont en train de s'implanter pour recycler tout ce que nous avons déchets. Donc, ils ont eu suffisamment de temps pour se préparer. C'est pour cela que même la FEC est contre un quelconque report de cette mesure-là. Le gouvernement, c'est la même chose. La mesure doit être appliquée. Il ne peut pas y avoir des exceptions pour que... Et enfin, il va de l'avenir de notre pays.
Portrait.
Joseph Kapika, nous allons suivre les grandes lignes de votre parcours dans ce portrait que nous présente Belinda Bosuma.
Joseph Kapika est né à Tshibala le 10 octobre 1950, marié et père de 9 enfants, originaire de la province du Kasaï central. Il fait ses études primaires à l'Institut Saint-Dominique Xavier de Mikalaï. Il a obtenu un diplôme d'État des humanités commerciales et administratives au Collège Saint-Louis de Lulouabourg, une licence en sciences commerciales et financières du campus de Kinshasa en 1974. En ce qui concerne son parcours politique à l'UDPS, Joseph Kapika a respectivement été secrétaire national adjoint en charge des transports et communications, secrétaire national aux transports et porte-parole du parti, secrétaire national aux finances, chargé des missions de la province du Kasaï occidental et secrétaire général adjoint. Quant à son parcours dans les entreprises publiques, Joseph Kapika a travaillé comme directeur financier puis administrateur directeur financier du Centre de commerce international du Zaïre CCIZ, directeur financier puis directeur de l'audit interne de l'entreprise minière de Kissing et Manganèse EMK, directeur adjoint chargé de l'audit administratif et financier de l'Office des routes, actuellement ministre d'État, ministre de l'économie nationale.
Monsieur le ministre, les millions de Congolais qui nous suivent m'en voudront de ne pas vous poser la question qui se pose chaque jour. Quand est-ce que le Congolais cessera d'avoir faim et qu'il pourra manger 3 fois par jour? Il pourra vêtir ses enfants, les inscrire dans des bonnes écoles à sa guise. Quand est-ce que cela pourrait arriver?
Cela viendra le jour où le Congolais comprendra qu'il doit travailler. Mais c'est biblique, tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. J'ai fait régulièrement l'intérieur du pays. Mais nous avons abandonné l'agriculture. Aller dans pratiquement tous nos villages, on ne fait plus l'agriculture. Faites une enquête sur la nationale numéro 1. Et vous trouvez encore combien de véhicules bourrés de produits alimentaires. Je viens dernièrement du Kasaï central. J'ai été à Kalambambouji. J'ai fait Tshibala, j'ai fait Kalumba chez moi. Une route où on peut rouler aujourd'hui à 80 km/h, 90, mais vous ne trouvez pas un seul véhicule chargé de produits alimentaires. Mais nous avons abandonné l'agriculture. Vous voulez que nous ayons l'argent où? Oui, À l'époque coloniale, c'était une obligation. Chaque Congolais avait un lopin de terre. Il devait cultiver. Il avait de quoi manger, il avait aussi de quoi vendre.
Mais le gouvernement n'a pas su pérenniser cette impulsion.
Non, non, nous avons fui les campagnes. C'est ça le grand problème. Nous avons fui les campagnes. D'abord, il y a eu ce problème des diamants qui a tué l'agriculture. Là où on faisait les diamants, dans l'espace kassaïen, aller dans la province orientale, c'est pareil. Il y a eu le phénomène de l'or, c'est les gains faciles. Mmh. Les gens sont allés faire de l'or, aller aujourd'hui au Katanga avec d'autres minéraux, les cobalt qu'on est en train d'exploiter à la vaille que vaille. Mais les gens fouillent l'agriculture, ils vont gagner l'argent facile. Malheureusement, si vous menez une enquête, beaucoup de ces jeunes gens qui faisaient les diamants n'ont plus rien aujourd'hui. Beaucoup qui faisaient l'or n'ont plus rien aujourd'hui. Parce que c'est de l'argent facile, on attrape 1000 dollars le matin, on en consomme 800 pendant la journée, parce qu'on sait qu'on va encore en attraper demain. Donc nous avons nous-mêmes abandonné l'agriculture. Et c'est ce qui est à la base de nos malheurs aujourd'hui.
Monsieur le ministre, l'émission se termine. Un mot à tous les millions de Congolais qui vous suivent à travers la RDC et partout au monde.
J'ai un seul message, c'est l'appel au travail. Le retour à l'agriculture. Je ne connais pas de pays qui se soit développé avec les mines. Les mines s'épuisent, mais l'agriculture demeure. Deuxièmement, ensemble, faisons tout pour éliminer les sachets plastiques non biodégradables. Et plus ensemble encore, regardons dans la même direction, allons aux élections, non pas comme des ennemis, mais comme des adversaires, comme des frères et sœurs. Il va de la paix et de l'avenir de notre pays.
Monsieur le ministre, merci d'avoir reçu grande interview chez vous.
C'est moi qui vous remercie.
Grande interview, c'est fini pour aujourd'hui. Supervision Tina Salama, coordination Michel Kifindangoy, présentation Alain Rung Mouchinge. Merci de votre attention et à la prochaine pour un nouveau numéro.